Au micro, Ilan Rosanquier, qui a le plaisir de vous présenter un nouveau numéro de Chronique pour la paix. Chers auditeurs, on assiste depuis quelque temps déjà, semble-t-il, à une évolution de l'opinion publique israélienne quant à l'appréciation qu'elle porte sur la manière dont le gouvernement fait face à la situation sanitaire et plus encore à la crise économique et sociale qui en découle. Alors qu'au mois de mai, 74% des Israéliens étaient satisfaits de l'action du gouvernement et de son Premier ministre en particulier, actuellement, les insatisfaits l'emportent sur les satisfaits. 49% des personnes sondées sont insatisfaites de l'action du gouvernement contre 46%. Un mois plus tôt, il y avait un rapport inversé puisque plus de la moitié, 56%, étaient satisfaits contre seulement 36% d'insatisfaits. Cette évolution de l'opinion publique israélienne met en relief un paradoxe. Les citoyens sont de plus en plus en colère, les manifestations et autres rassemblements se multiplient, mais ces mêmes citoyens, dès lors qu'ils deviennent électeurs, envisagent de voter encore plus massivement que précédemment, que lors des élections précédentes, pour les mêmes partis dont ils sont insatisfaits quant à leur gestion de la situation sanitaire et économico-social. Pour échanger sur cette situation et ce paradoxe, j'ai le plaisir d'avoir en direct au bout du fil David Benichou. David, vous êtes là ?
Oui, je suis là, bonjour.
Bonjour. Donc David Benichou, qui a eu une carrière bien remplie en France, est de retour en Israël depuis 2015. Il s'est alors spécialisé sur les questions environnemental et de développement durable, et plus particulièrement sur la thématique de gestion des déchets, thématique sur laquelle il a été en poste pendant 2 ans à la municipalité de Kfar Saba. Il est actuellement chef de projet pour 2 entreprises privées sur cette même thématique. Mais par ailleurs, et c'est cette casquette-là surtout qui nous intéresse, David Benichou est actif sur les réseaux sociaux et dans la rue, dans le cadre des mouvements de contestation citoyenne pour une meilleure gouvernance contre la corruption et l'annexion unilatérale et pour la préservation et la défense de la démocratie. Tout d'abord, première question, David, est-ce que vous partagez cette observation quant à la montée de l'insatisfaction ou bien s'agit-il de sentiments éprouvés par une minorité de citoyens et insatisfaction qui serait montée en épingle par les médias, la presse, comme on le dit parfois?
Non, là, pour le coup, non, c'est plutôt dans le sens inverse que certaines presses institutionnelles auraient aimé présenter les choses. Non, il y a un vrai sentiment de colère, il y a un vrai sentiment d'insatisfaction. Toute cette période de crise a été émaillée d'affaires qui n'avaient pas directement à voir avec les stratégies qu'on mettait en œuvre pour endiguer la crise, et notamment le fait d'endiguer le nombre de morts, effectivement, et le nombre de cas, mais surtout les mesures pour éviter un effondrement de pans entiers de l'économie. Alors, il y a des pans de l'économie qui sont de façon mécanique touchés par la crise. Je pense au tourisme, à tout ce qui est hôtellerie, etc. Mais il y a effectivement, il y a eu un arrêt total de l'économie pendant pratiquement 2 mois. C'était vide, les rues étaient vides. Et puis tout d'un coup, un retour, comme si de rien n'était, un retour avec un encouragement du Premier ministre à sortir, consommer, aller dans les bars, etc. Et donc il y a eu un passage radical. Et le sentiment aussi des Israéliens, c'est que d'une certaine manière, le ministère de la Santé, qui n'est pas un corps opérationnel, a gardé les cartes près de lui en permanence, avec un certain nombre d'injonctions qui étaient données, qui pouvaient changer d'un jour à un autre. Donc le sentiment que ce qu'on demandait de faire n'était pas nécessairement basé sur l'empathie, la compréhension, la pédagogie, mais sur le fait d'être le doigt sur la couture et de répondre à ce qu'on nous demandait avec un sentiment de cafouillage. Et pour se retrouver finalement, 3 mois après le début de cette crise, avec un nouveau pic qui était attendu, beaucoup d'épidémiologues israéliens en parlent, avec le sentiment aussi que le corps scientifique, les grands chercheurs, les directeurs d'hôpitaux ne sont pas associés au processus décisionnel, et donc avec des voix très divergentes sur les réseaux sociaux qui disent qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Et donc là, il y a un sentiment de perte de confiance, un sentiment que tout le monde ne se retrouve pas autour de la table et toutes les personnes pertinentes pour prendre des décisions. Et les corps opérationnels ont eu tout un débat entre Bennett et le ministère de la Santé pendant un certain temps, pendant cette crise, de dire il y a aujourd'hui dans l'armée israélienne, Pikoud HaOrev, c'est-à-dire des capacités opérationnelles.
La défense civile, Pikoud HaOrev, c'est la défense civile.
Tout à fait. La défense civile, on a des scénarios, on est entraîné, on a des procédures qui peuvent aller très vite et on a un ministère de la Santé qui ne lâche rien. Ça a été le cas pour tout ce qui était les tests en laboratoire.
Oui, on a vu. Mais il y a donc effectivement une responsabilité du gouvernement dans l'organisation du dispositif d'intervention. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une responsabilité du public dans son comportement ? Parce que c'est facile de faire porter la responsabilité sur les autres et sur les autorités, alors qu'on a vu des images à la télévision et ailleurs qui montraient un comportement assez peu responsable compte tenu de la situation et qui ont sans doute compliqué le déconfinement.
Alors, c'est une question qui est subtile et qui est à la fois très complexe. C'est-à-dire que ça tout dépend de la façon dont le public intériorise les règles qu'on lui donne. Quand vous annoncez 1 million de cas, 10 000 morts, et qu'on est, on approche de ce qui pourrait ressembler à la grippe espagnole de l'après-guerre, quand vous annoncez ça, et que tout d'un coup les gens suivent au quotidien, c'est-à-dire qu'ils ne regardent même plus la météo, ils regardent le nombre de morts, et que tout d'un coup vous avez un contraste massif entre les effets d'annonce catastrophiques et complètement hystériques, et puis d'un autre côté une réalité. Et donc, comment vous permettez au public d'intérioriser des règles s'il n'y a pas un travail de pédagogie qui est fait avec une certaine humilité, en expliquant qu'on ne connaît pas la maladie, qu'on ne connaît pas son ampleur, mais donc la question de l'intériorisation des règles, on ne peut pas...
La question de l'intériorisation et donc de présentation d'explications qui a été faite. D'accord. Compte tenu du fait que le temps avance et passe très vite, j'aurais voulu avoir votre sentiment sur la deuxième partie donc de l'introduction, sur le paradoxe que j'ai mentionné, la différence entre des citoyens en colère et des électeurs qui, a priori, semblent relativement dociles et persévérer dans leur choix politique avec lesquels donc, ils sont en désaccord dès lors qu'il s'agit de la gestion de la crise économique et sociale. Comment expliquer ce paradoxe et que peut-on envisager pour que les choses évoluent ?
Alors, je voudrais dire deux choses. La première chose, c'est que quand parfois il y a des choses énormes, le premier réflexe humain, c'est de mettre la tête dans le sable, c'est de ne pas vouloir les voir. On a besoin de garder ses repères psychologiquement pour ne pas être trop déstabilisé. Il se passe des choses en matière démocratique, il se passe des choses en matière de gouvernance qui sont énormes en matière de corruption et que les gens n'ont pas envie d'être déstabilisés pour ça. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'on a vécu 1 an et demi sans gouvernement, avec 3 campagnes électorales. Les gens sont fatigués, sont épuisés, ils veulent revenir à une espèce de normalité. Et donc, il y a une espèce de je ne sais pas si c'est le mot docile, mais il y a au moins, ok, on veut essayer de donner une chance à ce gouvernement, au moins qu'il y ait un peu de stabilité, qu'on retrouve cette stabilité antérieure à cette grande crise politique qu'on a vécue depuis 1 an et demi. Mais c'est un paradoxe, effectivement. D'un côté, on voudrait retrouver une certaine sécurité, et donc ne pas trop avoir à se casser la tête, à réfléchir sur les implications politique de ce qui se passe, et puis d'un autre côté, la faim, on l'a vu dans différents témoignages, la souffrance, la désespérance des gens qui ont tout perdu. Donc il y a effectivement ces deux états qui sont en tension, mais si vous voulez, je dirais que les gens, pour l'instant, un nombre de gens, c'est trop de choses, c'est trop à avaler. Il faut avaler la crise du corona, il faut ensuite se rendre compte qu'il y a une corruption formidable, énorme, dans la gouvernance israélienne. Il y a tout ça à gérer d'un coup, c'est énorme. Donc vous avez effectivement une grande partie de la population. Et puis, méfions-nous des sondages Méfions-nous des sondages dans un contexte où toute une frange de la population descend dans la rue et pointe du doigt la tentation claire, nette et précise de Benjamin Netanyahou de basculer d'une démocratie libérale à une démocratie illibérale en maîtrisant la Cour suprême, en maîtrisant la presse, etc. Donc méfions-nous de ces sondages-là.
Oui, bien sûr, les sondages impliquent que ceux qui y croient et que ceux qui les... que ceux qui les commanditent. Pensez-vous très rapidement, puisqu'il nous reste une minute environ, que l'on s'oriente vers une espèce de ce qu'en France on parlerait de convergence des luttes, c'est-à-dire que des mouvements de colère et d'insatisfaction qui jusqu'à présent étaient sectoriels, il y avait les salariés d'un côté, les indépendants de l'autre, le monde de la culture, on va vers une espèce de globalisation de cette insatisfaction et peut-être... pourrait-il y avoir une articulation avec la dimension politique et de défense de la démocratie et de lutte contre la corruption ?
Alors, moi, évidemment, je le crois. Je milite pour, que ce soit en écrivant ou que ce soit en descendant dans la rue. Mais je vais vous dire une chose, un point sur lequel je veux m'attacher. Les Israéliens sont fatigués de la division, de la haine qu'on se renvoie les uns aux autres. Et ça... je le sens, on est fatigué qu'on renvoie dos à dos juifs à arabes, qu'on renvoie orthodoxes et chilonim. Ça fait 10 ans, 15 ans qu'on est dirigé par une politique de la division qui casse le sentiment d'union nationale et je crois que les Israéliens en ont marre.
Et ben c'est
ils veulent travailler à un contrat social nouveau pour l'avenir de leurs enfants.
Eh bien, c'est sur ce constat que nous allons nous séparer. Je vous remercie, David Benichou, de vos analyses. Nous aurons l'occasion encore, sans doute, de vous avoir à ce même micro. Il me reste à remercier nos auditeurs et leur souhaiter un bon Shabbat et à ceux qui sont sur leur départ de bonnes vacances et les inviter à se reporter aux réseaux sociaux et aux sites soit de La Paix Maintenant, soit de J-Call, sur lesquels ils trouveront des articles et des analyses de la situation politique et plus globalement de l'action en faveur d'un règlement politique du conflit israélo-palestinien.